Chapitre 3. Le conférencier en liberté. Les philosophes devraient bien prendre la peine un de ces jours de rechercher sérieusement si oui ou non les hommes sont capables de s'accommoder du bonheur. Le fait est que pas un mois ne se passe sans qu'un fils de famille se sauve de chez lui pour s'engager à bord d'un bateau marchand, ou qu'un mari choyé décampe à destination du Texas avec sa cuisinière. On a vu des pasteurs s'enfuir de chez leurs paroissiens, et il s'est même trouvé des juges pour sortir volontairement de la magistrature. En tout cas, le lecteur ne sera point trop surpris si je lui dis que Joseph Finsbury avait maintes fois médité des projets d'évasion. La destinée de cet excellent vieillard, je crois pouvoir l'affirmer, ne réalisait pas l'idéal du bonheur. Certes, M. Morris, que j'ai souvent le plaisir de rencontrer dans le métropolitain, est un gentleman des plus estimables, mais en tant que neveu, je n'oserais pas le proposer comme modèle. Quant à son frère Jean, c'était naturellement un brave garçon, mais si vous-même vous n'aviez pas d'autre attache que lui pour vous retenir à votre foyer, j'imagine que vous ne tarderiez pas à caresser le projet d'un voyage à l'étranger. Il est vrai que le vieux Joseph avait une attache plus solide que la présence de ses deux neveux pour le retenir à Bloomsbury, et cette attache n'était point, comme l'on pourrait penser, la société de Julia Hazeltine, encore que le vieillard aima tasser sa pupille, mais bien l'énorme collection de carnets de notes où il avait concentré sa vie tout entière. Que Joseph Finsbury se soit résigné à se séparer de cette collection, c'est là une circonstance qui en vérité ne fait que peu d'honneur aux vertus familiales de ses deux neveux. Oui, la tentation de la fuite était déjà vieille de plusieurs mois dans l'âme de l'oncle. Et lorsque celui-ci se trouva tout à coup tenir en main un chèque de 800 livres à lui payable, la tentation se changea aussitôt en une résolution formelle. Il garda le chèque, qui pour un homme d'habitude frugale comme lui signifiait la richesse, et il se promit de disparaître dans la foule dès l'arrivée à Londres, ou bien, s'il n'y parvenait pas, de se glisser hors de la maison au cours de la soirée et de fondre comme un rêve dans les millions des habitants de la capitale. Tel était son projet. La coïncidence particulière de la volonté de Dieu et d'une erreur d'aiguillage fit qu'il n'eut pas même à attendre aussi longtemps pour le réaliser. Il fut l'un des premiers à revenir à lui et à se retrouver sur pied après la catastrophe de Brown Dean. Et il n'eut pas plutôt découvert l'état de prostration de ses deux neveux que, comprenant sa chance, il détala aussi vite qu'il put. Un homme de 70 ans passés, qui vient d'être victime d'un accident de chemin de fer et qui a encore le malheur d'être encombré de l'uniforme complet des patients de Sir Faraday Bond, on ne saurait exiger d'un tel homme une course bien fournie. Mais le bois était à deux pas et offrait aux fugitifs un abri, tout au moins temporaire. Vers cet abri, le vieillard se réfugia avec une célérité étonnante. Et puis, se sentant quelque peu moulu après la secousse, il s'étendit par terre au milieu d'un fourré et ne tarda pas à s'endormir très profondément. Les voies du destin offrent souvent un spectacle des plus divertissants à l'observateur désintéressé. Je ne puis, je l'avoue, m'empêcher de sourire en songeant que, pendant que Maurice et Jean s'ensanglantaient les mains pour cacher dans le sable le corps d'un homme qui ne leur était rien, leur oncle dormait d'un bon sommeil reconstituant à quelques 100 pas d'eux. Il fut réveillé par l'agréable son d'une trompe venant de la grand-route voisine où un maïcoach promenait un groupe de touristes attardés. Le son égaya le vieux cœur de Joseph et dirigea ses pas par-dessus le marché, si bien qu'il ne tarda pas lui-même à se trouver sur la grande route, regardant à droite et à gauche sous sa visière et ne demandant ce qu'il devait faire de lui. Bientôt, un bruit de roues s'éleva dans le lointain et Joseph vit approcher un chariot de camionnage chargé de colis, conduit par un cocher d'apparence bienveillante et portant imprimé sur ses deux côtés la légende « J. Chandler, camionneur ». Fût-ce un vague et bien imprévu instinct poétique qui suggéra à l'oncle Joseph l'idée de poursuivre son évasion dans le chariot de M. Chandler. Je croirais plutôt à des considérations d'ordre plus foncièrement pratique. Le voyage se ferait à bon marché. Peut-être même avec un peu d'adresse, Joseph pourrait-il obtenir de voyager gratuitement. Restait bien la perspective de prendre foi sur le siège. Mais après des années de mitaine et de flanelle hygiénique, le cœur de Joseph aspirait avidement au risque d'un rhume de cerveau. Et peut-être M. Chandler fut-il d'abord un peu surpris de trouver un endroit aussi solitaire de la grande route, un gentleman aussi vieux, aussi étrangement vêtu, et qui le priait aussi aimablement de vouloir bien le recueillir sur le siège de sa voiture. Mais le camionneur était en effet un brave homme, toujours heureux de rendre service, de telle sorte qu'il recueillit volontiers l'étranger. Et puis, comme il tenait la discrétion pour la règle essentielle de la politesse, il se défendit de lui faire aucune question. Le silence d'ailleurs ne déplaisait pas à M. Chandler. Mais à peine la voiture avait-elle commencé à se remettre en mouvement que le digne camionneur se trouva contraint de subir le choc inattendu d'une conférence.
Le mélange de caisses et de paquets que contient votre voiture, dit aussitôt l'étranger, ainsi que la vue de la bonne jument flamande qui nous conduit, me font conjecturer que vous occupez l'emploi de camionneur dans ce grand système de transport public qui, avec toutes ses lacunes, n'en est pas moins l'orgueil de notre pays.
Oui, monsieur, répondit vaguement M. Chandler, qui ne savait pas trop ce qu'il devait répondre. Mais l'institution des colis postaux nous a déjà fait bien du tort dans notre parti.
« Oh, je suis un homme libre de préjugés, » poursuivit Joseph Lansbury. « Dans ma jeunesse, j'ai fait de nombreux voyages. Rien n'était trop petit pour ma curiosité. En mer, j'ai étudié les différentes façons de nouer les câbles et me suis mis au courant de toutes les termes techniques. À Naples, j'ai appris l'art de préparer le macaroni. » À Cannes, je me suis instruit des principes de la fabrication des fruits confits. Jamais je ne suis allé entendre un opéra sans avoir acheté le livret et même sans avoir fait connaissance avec les principaux airs en les jouant d'un seul doigt sur un piano.
Vous devez avoir vu bien des choses, monsieur, déclara le camionneur en fouettant sa bête.
« Savez-vous combien de fois le mot « fouet » revient dans l'Ancien Testament ?» reprit le vieux gentleman. « Il revient 47 fois. »«
Oh, vraiment, monsieur ?» dit M. Chandler. « Oh, voilà ce que je n'aurais jamais cru. »
« La Bible contient 3 501 249 lettres. Quant au verset, je crois qu'il y en a plus de 18 000. Oh, il y a eu beaucoup d'éditions de la Bible. Wycliffe a été le premier à l'introduire en Angleterre vers l'an 1300. Le paragraphe Bible, comme on l'appelle, est une des éditions les plus connues et doit son nom à ce qu'elle est divisée en paragraphes. Le camionneur se borna à répondre sèchement que c'était bien possible et appliqua son attention à la tâche plus familière d'éviter une charrette de foin qui venait en sens inverse, tâche assez malaisée d'ailleurs, car la route était étroite avec des fossés sur les deux côtés. Bon, « Je vois, commença M. Finsbury, lorsque la charrette fut heureusement dépassée, que vous tenez vos rênes d'une seule main, vous devriez les tenir des deux mains. Oh, « Par exemple, j'aime bien ça, » s'écria dédaigneusement le camionneur. « Et pourquoi donc ?»« Oh, ce que je vous dis est une fête scientifique, » reprit M. Finsbury, « et repose sur la théorie du levier, qui est une des branches de la mécanique. Il existe, sur ce domaine de la science, de très intéressants petits ouvrages à 12 sous que j'estime qu'un homme de votre condition aurait profit à lire. » Je crains que vous n'ayez guère pratiqué le grand art de l'observation. Voici près d'une demi-heure que nous sommes ensemble, et vous n'avez pas encore émis un seul fait. C'est un bien grave défaut, mon cher ami. Par exemple, je ne sais pas si vous avez observé que tout à l'heure, en passant près de cette charrette à foin, vous avez pris à gauche. « Mais naturellement, je l'ai observé !» s'écria M. Chandler, qui devenait d'humeur belligérante. « Le charretier m'aurait fait dresser passer verbal si je n'avais pas pris à gauche. »« Eh bien, en France, poursuivit le vieillard, en France et aussi, je crois, aux États-Unis, en Amérique, vous auriez pris à droite. »« Mais je vous assure bien que non !» déclara M. Chandler avec indignation. « J'aurais pris à gauche !»« Je note, » poursuivit M. Finsbury, dédaignant de répondre, « que vous raccommodez vos harnais avec du gros fil. J'ai toujours protesté contre la négligence et la routine des classes pauvres en Angleterre. Dans une allocution que j'ai prononcée un jour devant un public éclairé, « Mais c'est pas du gros fil !» interrompit hargneusement le camionneur. « C'est de la ficelle !»« J'ai toujours soutenu, » reprit le vieillard, « que dans leur vie privée et domestique, aussi bien que dans la pratique de leur profession, les classes inférieures de ce pays sont imprévoyantes, routinières et inintelligentes. C'est ainsi, pour m'en tenir un exemple. » « Mais que diable est-ce que vous entendez par vos classes inférieures ?» cria M. Chandler. « C'est vous-même qui êtes une classe inférieure. Oh, si j'avais pu penser que vous étiez un pareil aristo, je vous aurais pas laissé monter dans ma voiture. » Ces paroles furent prononcées avec une intention désagréable la moins déguisée du monde. Évidemment, les deux hommes n'étaient pas faits pour s'entendre. À prolonger la conversation, il n'y fallait pas penser, même pour un homme aussi loquace que l'était M. Finsbury. Le vieillard se borna à renfoncer sur ses yeux la visière de sa casquette d'un geste résigné. Après quoi, ayant tiré de sa poche un carnet de notes et un crayon bleu, il ne tarda pas à se plonger dans une statistique. Le camionneur, de son côté, se remit à siffler avec énergie. Que si, de temps à autre, il jetait un coup d'œil sur son compagnon, c'était avec un mélange de triomphe et de crainte. De triomphe parce qu'il avait réussi à arrêter cette averse de paroles, et de crainte car il se demandait si tout à coup,
l'averse en question n'allait pas recommencer. Il n'y eut pas jusqu'à une véritable averse, un grain, qui s'abattit brusquement sur eux et puis cessa brusquement. Il n'y eut pas jusqu'à cet accident qu'ils l'endurassent en silence. Et c'est encore en silence qu'ils firent leur entrée dans la ville de Southampton. La nuit était venue, les vitrines des boutiques brillaient dans les rues de la vieille ville. Dans les maisons particulières, des lampes éclairaient le repas du soir. Et M. Finsbury commença à songer avec complaisance qu'il allait pouvoir s'installer dans une chambre où le voisinage de ses neveux ne risquait pas de troubler son sommeil. Il classa soigneusement ses papiers, les remit dans sa poche, toussa pour s'éclaircir la gorge et lança un regard hésitant sur M. Chandler. « Seriez-vous assez aimable, hasarda-t-il, pour m'indiquer une hôtellerie ?» M. Chandler réfléchit un moment. « Eh bien, dit-il, je me demande si les armes de Tregonwell ne feraient pas l'affaire. »« Les armes de Tregonwell feront parfaitement mon affaire, » répondit le vieillard. Si c'est une maison propre et peu coûteuse, et si les gens y sont polis. Oh non, ce n'était pas à vous que je pensais, repartit ingénument M. Chandler. Je pensais à mon ami Watts qui tient la maison. C'est un vieil ami à moi, voyez-vous, et qui m'a rendu un grand service l'année passée. Mais je me demande à présent si je dois en conscience encombrer un aussi brave homme d'un client tel que vous, qui risque de l'assommer avec ses explications. Mais je me demande si ce serait bien de ma part, ajouta M. Chandler avec tout le ton d'un homme que tourmente un grave scrupule de conscience. Écoutez ce que je vais vous dire, mon ami, fit le vieillard. Vous avez eu l'obligeance de me prendre gratuitement dans votre voiture, mais cela ne vous donne pas le droit de me parler sur ce ton. Tenez, voici un shilling pour votre peine. Et puis si vous ne voulez pas me conduire aux arbres de Tregonwell, j'irai à pied jusque-là, voilà tout. La vigueur de cette apostrophe intimida M. Chandler. Il murmura quelque chose qui ressemblait à une excuse, retourna le shilling entre ses doigts, engagea sa voiture en silence dans une ruelle tournante, puis dans d'autres, et s'arrêta enfin devant les fenêtres vivement éclairées d'une auberge. De son siège, il appela « Watts !»« Oh, c'est vous, Jane !» cria une voix amicale du fond de l'écurie. « Entrez, mon vieux, et venez vous chauffer !»« Non, merci !» répondit le camionneur. « Je m'arrête seulement une minute au passage pour faire descendre un vieux monsieur qui veut dîner et se loger. Mais, vous savez, prenez garde à lui. Il est pire qu'un membre de la Ligue anti-alcoolique. » Monsieur Flinsbury eut quelque peine à descendre, car la longue immobilité sur le siège l'avait engourdi, et puis il ressentait encore la secousse de la catastrophe. L'amical M. Watts, malgré l'avertissement du camionneur, le reçut avec une courtoisie parfaite et le fit entrer dans la petite salle du fond où il y avait un excellent feu dans la cheminée. Bientôt, une table fut servie dans cette même salle, et le vieillard fut invité à s'asseoir devant une volaille étuvée qui paraissait l'avoir attendue depuis plusieurs jours et un grand pot d'aile fraîchement tiré du tonneau. Ce souper lui rendit toute sa verdeur, de telle sorte que lorsqu'il eut achevé de se régaler, il alla s'installer plus près du feu et se mit à examiner les personnes assises aux tables voisines. Il y avait là une dizaine de buveurs, d'âge mûr pour la plupart,
Et, Joseph Finsbury est une véritable satisfaction à le constater, appartenant tous à la classe ouvrière. Souvent déjà, le vieux conférencier avait eu l'occasion de constater deux des traits les plus constants du caractère des hommes de cette classe, à savoir leur appétit pour de menus faits sans lien et leur culte par les raisonnements en l'air. Aussi notre ami résolut-il aussitôt de s'offrir encore avant la fin de cette mémorable journée la saine jouissance d'une allocution. Il tira ses lunettes de leur étui, les affermit sur son nez, prit dans sa poche une liasse de papier et les répandit devant lui sur une table. Il les déplia, les aplanit d'un geste complaisant. Tantôt il les soulevait jusqu'à la hauteur de son nez, évidemment ravi de leur contenu. Tantôt les sourcils froncés, il paraissait absorbé dans l'étude de quelques détails importants. Un coup d'œil furtif dans la salle lui suffit pour s'assurer du succès de sa manœuvre. Tous les yeux étaient tournés vers lui. Les bouches béaient, les pipes reposaient sur les tables. Les oiseaux se trouvaient charmés. Et au même moment, l'entrée de M. Watts vint fournir à l'orateur la manière de son exorde. « J'observe, monsieur, » dit-il en s'adressant à l'aubergiste, mais avec un regard encourageant pour le reste de l'auditoire, comme s'il avait voulu faire entendre que chacun était le bienvenu dans sa confidence. « J'observe que quelques-uns de ces messieurs me considèrent avec curiosité. Et c'est en effet chose peu commune de voir un homme s'occuper à des recherches intellectuelles dans la salle publique d'une taverne. Mais je n'ai pu m'empêcher de relire certains calculs que j'ai fait ce matin même sur le prix moyen de la vie dans ce pays-ci et dans d'autres pays. Un sujet, ai-je besoin de le dire, particulièrement intéressant pour des représentants des classes laborieuses. Oui, j'ai calculé, d'après une échelle de revenus allant de 80 à 240 livres par an. Le revenu de 80 livres n'a pas été sans m'embarrasser très longtemps. Et maintenant encore, mes chiffres, en ce qui le touche, comportent une légère part d'aléa, car les différents modes du blanchissage, par exemple, suffisent pour créer de sérieuses différences dans les frais généraux. Au reste, je vais vous demander la permission de vous lire le résultat de mes recherches, et j'espère que vous ne ferez pas scrupule de me signaler les menues erreurs que j'aurais pu commettre, soit par insuffisance d'information ou par négligence. Je débuterai, messieurs, par le revenu de 80 livres. Sur quoi le vieillard, avec moins de pitié pour ces pauvres diables qu'il en aurait eu pour des animaux, s'épancha de ses fastidieuses et ineptes statistiques. Il donnait de chaque revenu 9 versions successives, transportant tour à tour son personnage imaginaire à Londres, Paris, Bagdad, Spitzbergen, Bassora, Cork, Cincinnati, Tokyo et Nijni Novgorod. Et l'on ne s'étonnera pas d'apprendre qu'aujourd'hui encore, ses auditeurs de Southampton se rappellent cette soirée comme la plus mortellement ennuyeuse de toute leur vie. Longtemps avant que M. Finsbury fût parvenu jusqu'à Nijni Novgorod, en compagnie d'un homme absolument fictif, possédant un revenu de 100 livres, tout son auditoire s'était éclipsé discrètement, à l'exception de 2 vieux ivrognes et de M. Watts, ce dernier supportant son ennui avec un courage admirable. À tout instant, de nouveaux clients entraient dans la salle, mais, sitôt servis,
se hâtaient d'avaler leur liqueur et repartaient au plus vite vers une autre taverne. Monsieur Watts fut seul à savoir ce que pouvait être à Bagdad la vie d'un homme jouissant d'un revenu de 240 livres. Et à peine cette entité venait-elle de transporter sa vie imaginaire à Bassora, que l'aubergiste lui-même, malgré tout son courage, dut quitter la salle. Monsieur Finsbury dormit profondément après les multiples fatigues de sa journée. Il se leva le lendemain vers 10 heures, et s'étant encore muni d'un excellent déjeuner, il demanda au domestique de lui apporter sa note. C'est alors qu'il s'aperçut d'une vérité dont bien d'autres que lui se sont aperçus. Il découvrit que demander sa note et payer cette même note étaient deux choses différentes. Les détails de la note étaient d'ailleurs extrêmement modérés et l'ensemble ne s'élevait qu'à 5 ou 6 shillings. Mais le vieillard eut beau scruter avec le plus grand soin le contenu de ses poches, le total de sa fortune présente, en espèces du moins, ne dépassait pas 1 shilling et 9 pence. Il pria qu'on lui fît venir M. Watts. « Voici, dit-il à l'aubergiste, un chèque de 800 livres payable à Londres. Je crains de ne pas pouvoir en toucher le montant avant un jour ou deux, à moins que vous ne puissiez me l'escompter vous-même. » Monsieur Watts prit le chèque, le tourna et le retourna, le palpa entre ses doigts. « Vous dites que vous aurez à attendre un jour ou deux, » fit-il enfin. « Vous n'avez pas d'autre argent. »
« Un peu de monnaie, » répondit Joseph, « à peine quelques shillings. »«
En ce cas, vous pourrez m'envoyer le montant de ma note. Je m'en remets à vous.
»« Pour vous parler franchement, » poursuivit le vieillard, « je suis assez tenté de prolonger mon séjour ici. » « J'ai besoin d'argent pour continuer mon voyage. »«
Mais si un prêt de 10 shillings peut vous aider, je le tiens à votre service, » reprit M. Watts avec empressement.
« Non, merci, » dit Joseph. « Je crois que je vais plutôt rester quelques jours chez vous et me faire escompter mon billet avant de repartir. »
« Non, vous ne resterez pas un jour de plus dans ma maison, » s'écria M. Watts. « C'est la dernière fois que vous avez eu un lit aux arbres de Tregonwell. »
« J'entends rester chez vous, » répliqua M. Finsbury. « Les lois de mon pays me donnent le droit de rester. Faites-moi sortir de force si vous l'osez. »
« Alors, payez votre note, » dit M. Watts.
« Prenez ceci !»
cria le vieillard, lui fouant en main le chèque négociable.
« C'est pas de l'argent légal, » répondit M. Watts. « Alors vous allez sortir de chez moi et tout de suite. »«
Je ne saurais vous donner une idée du mépris que vous m'inspirez, M. Watts, » reprit le vieillard, comprenant qu'il devait se résigner aux circonstances. « Mais dans ces conditions, je vous préviens que je me refuse à payer votre note. »«
Oh, peu importe ma note, » répondit M. Watts. « Ce qu'il me faut, c'est votre départ d'ici. »«
Eh bien, monsieur, vous serez satisfait, » prononça emphatiquement M. Finsbury. Après quoi, saisissant sa casquette à visière pointue, il se l'enfonça sur la tête.
« Insolent comme vous êtes, » ajouta-t-il, « vous ne voudrez peut-être pas m'indiquer l'heure du prochain train pour Londres. »«
Oh, monsieur, il y a un excellent train dans 3 quarts d'heure. répliqua l'aubergiste redevenu aimable, et avec plus d'empressement qu'il en avait mis à offrir les 10 shillings. Vous pourrez le prendre sans avoir besoin de vous presser. La position de Joseph était des plus embarrassantes. D'une part, il aurait aimé à pouvoir éviter la grande ligne de Londres, car il craignait fort que ses neveux ne fussent embusqués dans la gare, guettant son arrivée pour s'emparer de lui. Mais, d'autre part, c'était pour lui chose éminemment désirable et même rigoureusement indispensable de faire escompter son chèque avant que ses neveux eussent le temps de s'y opposer. Il résolut donc de se rendre à Londres par le premier train. Et un seul point lui resta à considérer, le point de savoir comment il s'arrangerait pour payer son voyage. John Finsbury, Joseph Finsbury, avait presque toujours les mains sales, et je doute que, à voir par exemple la façon dont il mangeait, vous l'eussiez pris pour un gentleman. Mais il avait mieux que l'apparence d'un gentleman. Il avait dans toute sa personne un je ne sais quoi de digne, à la fois et de séduisant, qui, pour peu qu'il le voulût, ne manquait jamais à produire son effet. Et lorsque, ce jour-là, il aborda le chef de garde de Southampton, son salam alek fut véritablement oriental. Le petit bureau du chef de garde sembla tout à coup s'être changé en un bosquet de palmiers, où le simoun et le boulboule... Non, mais je vais laisser à ceux de mes lecteurs qui connaissent l'Orient mieux que moi le soin de poursuivre et de compléter cette métaphore. La mise du vieillard, en outre, prévenait en sa faveur. L'uniforme de Sir Faraday Bond, pour incommode et voyant qu'il fût, n'était certainement pas une tenue qui risquât d'être adoptée par des chevaliers d'industrie. Et l'exhibition d'une montre, mais surtout d'un chèque de 800 livres, acheva ce qu'avaient commencé les belles manières de notre héros. De telle sorte que, un quart d'heure plus tard, lorsqu'arriva le train de Londres, M. Finsbury fut recommandé au conducteur du train par le chef de gare et respectueusement installé dans un compartiment de première. Pendant que le vieux gentleman attendait le départ du train, il fut témoin d'un incident de peu d'intérêt en soi, mais qui devait avoir une influence décisive sur les destinées ultérieures de la famille Finsbury. Une caisse d'emballage gigantesque fut amenée sur le quai par une douzaine de porteurs et à grand-peine hissée par eux dans le fourgon aux bagages. C'est souvent la tâche consolante de l'historien de diriger l'attention de ses lecteurs sur les desseins ou, révérence parlée, les artifices de la Providence. Dans ce fourgon à bagages du train qui menait Joseph Finsbury de Southampton Est à Londres, l'œuvre de ce roman se trouvait pour ainsi dire à l'état incouvé. L'énorme caisse était adressée à un certain William Dent Pitman, en gare à la station de Waterloo, et le colis qui l'avoisinait dans le fourgon était un solide baril de dimension moyenne, très soigneusement fermé et portant l'adresse M. Finsbury, 16 John Street, Bloomsbury, port payé. La juxtaposition de ces deux colis, c'était une traînée de poudre ingénieusement préparée par la Providence. Il ne manquait plus qu'une main d'enfant pour y mettre le feu.